Salut à tous et bienvenue sur Jogging Bonito, je suis Emile. Je serai aux commandes donc, de ce nouveau podcast qui sera dédié au running et plus si affinité. Nous disposons de trois chroniqueurs, Rémi, NFKB, Emile de Lapin Runner et Daddy The Beat, Daddy Le Rythme pour les intimes. Salut les gars.
Salut Emile.
Salut.
Salut. Je vous propose qu'on lance directement la chronique de Rémi qui va nous parler de choses assez intéressantes qui sont les données recueillies pendant le sport ou autrement appelé le data waterboarding pour les Américains. Rémi, je te laisse répondre à cette question, savoir si elles sont nos amis ou nos ennemis.
Ok, c'est parti les gars, je vais vous raconter une belle histoire. Penchez vos écouteurs et laissez-vous envoûter par ma voix. Le ciel est bleu, la température est parfaite. Il fait 12 degrés. Nous sommes un magnifique samedi matin d'avril dans la métropole lilloise. J'arrive chez moi après un entraînement court mais très intense. J'ai fait du HIIT, comme ils disent sur Internet. Comme ça, j'ai brûlé 24 000 calories en 22 minutes. C'est super. Je regrette un peu quand même de ne pas avoir le nouveau capteur Stride, car il aurait été super intéressant d'avoir des estimations de puissance sur cet exercice. Bon, j'arrive chez moi, j'ouvre mon portable, je clique sur les petits raccourcis sur mon bureau, Logbook, Training Peaks, Strava. Je reprends mon logbook sur Google Sheets. Ça, c'est le cœur de mon activité running. Je mets la date, l'activité, les durées, c'est les basiques. Ensuite, comme beaucoup, j'ajoute la paire de chaussures utilisées. Aujourd'hui, des Skechers GoRun 4 jaunes de Damas, somme toute bien confortables. Hashtag clique sur mon lien affilié Amazon. Viennent ensuite les données physiologiques. Fréquence cardiaque moyenne et répartition du temps passé dans mes zones d'entraînement. Pour les curieux, j'utilise un modèle à 3 zones. Suite à mes lectures sur l'entraînement polarisé. Ensuite, j'ajoute un dernier paramètre, totalement subjectif mais lourdement pondéré dans le calcul de la charge d'entraînement, mon ressenti sur une échelle de 0 à 10, le RPE. RPE, ça veut dire Rate of Perceived Exertion, ou échelle de Borg. Pour l'historique, à l'origine, c'était une note sur 20, et c'était censé se caler plus ou moins sur la fréquence cardiaque, genre t'es à 150, ça vaut 15, t'es à 222, ça vaut 20, c'était un truc logique. Et je sais pas du tout ce qui m'a décidé, mais en fait, je suis passé sur une échelle de 10, comme quoi même les nerfs perdent parfois le contrôle. Là, c'est l'angoisse. Bon, Google Spreadsheet compute. Le Big Data est à portée de main. Voici une nouvelle ligne dans mon tableau. La 348e ! Alléluia ! Alors, automatiquement, j'obtiens les indices de charge d'entraînement, aigu et chronique, aka ATL et CTL, un ratio ATL sur CTL, le ramp rate du CTL sur 7, 30 et 90 jours, le temps passé dans chaque zone de fréquence cardiaque cette semaine et cette année, et les variations par rapport à la moyenne. Et je kiffe.
C'est dégueulasse.
C'est bon, ça. C'est un petit peu du data porn, mais chacun son truc, les gars. Soyez ouverts d'esprit. D'ailleurs, les esprits étroits rejettent cette attitude. Qui n'a pas lu sur un forum que le cardio, c'est de la connerie, de mon temps, on courait aussi bien sans? Ou alors, je m'en fous de vos gadgets, moi je vais toujours à fond, de toute façon, je suis un bourrin, ça marche comme ça. Et là, je dis, heureux les simples d'esprit. Ces philistins ne comprennent pas l'intérêt de la planification d'une saison, de la recherche du gain physio, et de l'intérêt de le souligner objectivement pour poursuivre cette quête d'un meilleur chrono. Je ne parle même pas de la gestion efficiente d'un tapering avant une grande compétition. Bon, c'est un peu douloureux de voir tant de gens dans l'erreur, hein. Quand même, je suis humain, j'ai un cœur. Les pauvres, ils perdent leur temps en s'entraînant n'importe comment. Ils font au feeling qu'ils me disent, mais moi j'ai envie de dire qu'ils font rien en fait, mais rien. C'est dur, mais c'est comme ça. Après mon meilleur chrono sur marathon, j'étais boursouflé par ces convictions plus ou moins scientifiques. Des fois, je pense que je passais plus de temps à disséquer mes patterns d'entraînement qu'à courir. Et puis, j'ai pris conscience que j'étais alors à une sorte de pic de forme. Et finalement, j'aurais du mal à faire mieux en course à pied, en fait. Pour m'aider à accepter ça, j'ai décidé de passer à autre chose. La bonne vieille pirouette cérébrale de « ben ok, je masque la vérité ». Bien sûr, j'ai quand même continué avec mes habitudes de « cérébrale », entre guillemets. J'ai d'abord choisi des épreuves de course à pied plus longues, où la logistique, l'organisation et la stratégie me semblent importantes. J'ai fait jouer au max mes capacités à organiser les choses, j'ai eu du bol, un peu de courage, et ça s'est bien passé. J'insiste sur la chance, parce qu'il faut de la chance. Ensuite, j'ai voulu me mettre au triathlon. Et là, j'ai dû faire face à un truc vraiment nouveau, apprendre à nager le crawl. Oui, bon, bah, direct pour le premier billet podcast sur la course à pied, moi j'ai décidé de parler de natation. C'est bien, on sort direct du thème, mais vous pouvez quand même rester, c'est peut-être sympa. Alors oui, j'ai tout de suite acheté un nouveau gadget qui comptait les longueurs, les coups de bras et compagnie. Je me suis ensuite procuré ce qui me paraissait être le meilleur bouquin sur le sujet en français. Je n'avançais quand même pas beaucoup. Et à la maison, le Scores Wolf m'achevait de me retourner. C'était complètement la cata. Et puis, j'ai cherché du coaching pour progresser. J'ai fait une belle rencontre. Un gars simple et efficace dans son coaching. Ça paraît contradictoire avec moi, mais ça marche. Je bosse ce qu'il m'a dit, juste 2-3 trucs à répéter à chaque entraînement. Et je reviens le voir 3 mois plus tard pour les ajustements. Alors là, j'arrive avec plein de questions, j'ai des temps de référence, je veux comparer avec d'autres trucs que j'ai fait avant, tatatin. Et en fait, le gars, il me regarde, il me filme, et il me dit, c'est parfait, on change rien. Oh, je suis comme un con. Je reste comme là, je sais plus quoi dire. En fait, on poursuit la conversation, et il me demande si j'ai trouvé un coach pour préparer les épreuves de triathlon que j'ai programmées. Je lui explique que c'est compliqué, car j'intellectualise un petit peu, et j'ai du mal à suivre placidement un programme fait par quelqu'un d'autre. En fait, j'aimerais trouver un gourou avec qui être sur la même longueur d'onde, mais c'est pas simple. S'ensuit une conversation marquante sur les sciences du sport et la réalité de l'entraînement. Le coaching contre les sciences du sport, un marronnier du web sportif anglo-saxon. Mais le propos de mon coach s'infiltre en moi. En fait, je suis comme un disciple qui attendait son maître, l'efficacité de son coaching m'a convaincu. Voici ce qu'il m'expliquait. Pour progresser, il y a 4 étapes. Je vous livre la parole du maître. Do it, enjoy it, get fit at it, and then add the technique. Et ça, ce truc, ça me parle. Ensuite, il m'a expliqué un autre concept, plutôt d'autorité, puisqu'il s'agit des principes d'un des plus grands coachs de triathlon, Brett Sutton. Lui, il n'utilise pas du tout les outils modernes. Les sciences du sport, encore moins. Pour lui, il n'y a que l'expérience qui compte. Finalement, mon cerveau fait tout seul le parallèle avec ma pratique professionnelle, où on est aussi gavé de gadgets qui finalement ne servent pas à grand-chose, et j'ai l'impression de vivre un hurrah moment. Il faut faire des choses simples, c'est tout. C'est moins glamour que ce qu'on fantasme, ce qui est marketé et amplifié sur le web, mais c'est cette réalité qui compte. Jusqu'où est-ce ? C'est un peu difficile de changer de paradigme. Je suis un peu comme un psychanalyste qui découvre que le cerveau est un organe du corps. Hashtag private joke. C'est dur là, hein, je suis d'accord. Au final, je crois que je ne suis pas prêt d'arrêter de remplir des colonnes de chiffres parce que j'aime ça. Mais j'ai compris quelque chose d'important. Le sport de haut niveau est encore un art plus qu'une science. Et pour ma pomme, bah alors là, laissez tomber, de toute façon c'est foutu. Je suis pas né avec les bons gènes.
Ouais. Eh ben merci Rémi. Merci. Bon, bah, j'espère que vous avez tous bien retenu les points intéressants de cette chronique. Hein. On a fait un peu court sur celle-ci. On va vous poser un. Hein, Rémi, merci d'avoir.
Pourtant,
dans la longueur.
J'ai essayé de condenser tout ce qui passe dans mon esprit à chaque fois que je cours, mais vous voyez, j'ai du mal. Hein.
Bon, bien sûr, je pense que c'est pas la peine de préciser ce qu'est le ATL, le CTL, le ratio ATL, CTL.
C'est des raccourcis clavier.
Voilà. Je pense que tout le monde connaît. Donc on va pas rentrer dans le détail.
C'est quoi,
moi,
le
ce qui
Zwolf
m'intéresserait, par contre,
c'est quoi le Zwolf?
Bah, le Zwolf, c'est une unité de mesure créée par Garmin qui va te donner la meilleure efficience, je pense, du mouvement de la nage que tu as choisi. C'est ça, Rémi?
Ouais, il est trop fort, Emile. Il a bossé son sujet, c'est top. Oui, c'est un parallèle avec le golf où ils font faire le moins de nombre de coups possibles par trou. Là, c'est le moins grand nombre de coups de bras possibles par longueur. Et donc, en fait, le Swolf, c'est la somme du nombre de coups de bras sur une longueur de piscine. Voilà. Donc, plus c'est bas, plus ça veut dire que votre battement est efficient.
Je connaissais un club aussi où il fallait faire le plus grand nombre de coups par trou. Mais ça, c'était un club un peu spécial.
Ouais, c'est c'est un club d'alcoolique pas anonyme, ça.
C'était un club échangiste, mais bon. Et c'était aussi sympa.
Ce n'était pas du golf, quoi. Ni du Swolf.
Ah, voilà. Ça part très bien, ce podcast. C'est bon, ça. Voilà.
Ben, je sais pas ce que vous en pensez, David et Emir. Est-ce que vous procédez de la même façon pour les entraînements? Parce que chacun, je pense, a son propre ressenti sur une séance. On n'a pas tous besoin de le matérialiser par des données écrites. Moi, perso, c'est mon cas. J'aime bien avoir tout écrit et avoir un peu de données, même si j'y comprends pas grand-chose, mais ça me fait toujours kiffer. Donc, je sais pas vous, les gars.
Eh ben, écoute, déjà, moi, j'ai une chose un peu futile à dire, c'est que j'ai eu carrément la honte quand j'ai entendu Rémi parler de sa paire de Goron 4. Quand je vois que sur mon Strava, j'ai les dernières paires de chaussures que j'ai dû enregistrer, ça devait être des Kayano 18, qui doivent avoir maintenant 12 000 km. Mais plus sérieusement, en fait, moi, j'ai une petite question que je me posais, en fait, par rapport à cette manie des données. Je me disais, Rémi, si tu crées un grand nombre de paramètres subjectifs comme le ressenti, tu vois, qui pourraient être... je sais pas, moi, ton ressenti mental, ton ressenti musculaire, ton niveau de swag aussi, et que tu leur accordais à ces critères une importance déterminante dans tes analyses.
Tu te perds, à couche.
Est-ce que tu kifferais, moi?
Alors là, j'ai rien compris à ta question.
En fait,
il nous a fait une question de politique.
Mais non, pas du tout.
Il a pas fini encore la question, qu'on a déjà oublié ce que c'était. Quoi.
Ouais, parce que tu peux la faire en français ou sinon en allemand, mais
dans
je parle un peu le Deutsch.
Moi, personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir explorer ton temple des données.
Ouais.
Et il y a beaucoup de data, on va dire, objective. Et moi, ouais, je me demandais, tout à l'heure, tu parlais de ton RPE, là, ton échelle, oui, de 10, de 1 à 10. Et ça, c'est un critère subjectif. Et je me disais, oui, que dans tous ces tableaux-là, si tu avais d'autres, si tu ajoutais d'autres critères subjectifs en étant imaginatif, mmh, est-ce que tu kifferais moins qu'aujourd'hui avec tes données qui sont très objectives? En fait, la question derrière ça, c'est aussi de savoir...
Je comprends la perversité de ta question.
Merci, très bien.
Je vais essayer de pas la question.
Mais alors, en fait, pour répondre de façon un peu rationnelle à ce piège psychologique, c'est le RPE, il est lourdement pondéré dans le calcul de ma charge d'entraînement. C'est probablement la note dont je tiens le plus compte pour influencer la charge d'entraînement. Et le RPE, c'est un truc super synthétique qui met juste une note de difficulté ressentie, que ce soit psychologique, que ce soit une mauvaise météo, que ce soit parce qu'on est malade, que ce soit par difficulté musculaire,
d'accord,
qui est super synthétique. Et donc, je tiens énormément compte, en fait, du ressenti, et c'est le truc, je pense, parmi les plus importants quand je remplis mon tableau, c'est « Ok, je mets quoi comme note sur ce truc-là » Et il faut vachement tenir compte du premier chiffre qui nous vient à l'esprit. On dit que le RPE, il faut vraiment, vraiment l'évaluer juste à la fin de sa sortie pour avoir un RPE qui vale quelque chose. Il ne faut pas mettre un RPE 12 heures plus tard ou le lendemain.
Ouais. Bah en fait, ça fait un peu penser à l'échelle de la douleur, ça, dans le milieu médical, non? Non, c'est un peu dans cet esprit-là, non? Qui doit être sur 10 en plus, je crois.
Oui, c'est ça. Sachant que je ne suis pas du tout copain avec l'échelle de la douleur, moi, personnellement, mais ça, ça fera un autre sujet.
Je comprends.
Et est-ce que ton RPE, tu mets une variable qui est la santé mentale de l'individu? Parce que si t'aimes te faire mal, si t'SM, une séance où t'auras mal, t'auras eu un super ressenti, tu vas mettre 1.
Hein? Bah écoute, on peut faire un tableau inversé pour les malades psychologiques, plus graves que moi, on va dire. Mais non, en fait, moi, je suis un peu le jeu. Quand c'est facile, je mets 3 ou 2,5 ou par là, genre le footing pépère. Quand j'ai fait 1 km vertical et que j'ai failli mourir 3 fois, je mets 9,5, quoi. J'ai pas mis 10, j'ai jamais mis 10 sur 10. Non, grosso modo, pendant la sortie, d'ailleurs, souvent, je me dis « Oh putain, là, j'ai encore de prendre un demi-point de RPE, là. Pff, c'est bon, là, cette série de fracs, elle me tabasse, quoi. »
Bon, ok, nickel. Émir, t'as peut-être une question aussi sur le sujet?
Ouais, bah oui, j'avais une question, justement. Ce que je me disais, c'est que, monsieur Rémi, tu t'achètes une montre qui coûte extrêmement cher, une montre de running, ça coûte bien 500 boules. Après, derrière ça, tu uploads ça sur une plateforme du type Garmin Connect, Strava et compagnie, qui te crunch un maximum de données. Et qu'est-ce que tu fais avec, après? Tu prends un Google Spreadsheet pour recopier tout à la main à l'intérieur, et au final, toutes ces données, ce que t'en fais, c'est que tu les évalues avec un critère subjectif, qui n'apparaissent pas dans tous ces outils. Donc pour moi, c'est un truc qui me dépasse un petit peu, en fait.
Putain, on est avec le Gérard Filoche du running, quand même. Enfin, le mec est revendiqué à fond. Donc vas-y, Rémi, je te laisse répondre.
Ben non, je comprends que ça puisse poser question de se demander le travail de recopiage. Il y a très peu de recopiage. Et en fait, moi, j'adorerais que les sites Pro, là, ils tiennent en compte le RPE, parce que je pense que c'est une mesure super importante pour tenir compte de la charge d'entraînement, mais ils le font pas, alors j'ai dû trouver une solution par moi-même. Et le deuxième point qui a fait que je suis passé sur le Google Spreadsheet, c'est que j'ai eu plusieurs fois des bugs de montre, ou en changeant de plateforme, de tout importer, etc. Et ça, c'est vraiment relou. Et donc, je me suis dit, si j'ai un truc à moi, complètement indépendant, je peux mettre les données dont j'ai besoin en cas d'un bug, et je suis plus dépendant de personne, et j'ai un truc quasi gratuit, disponible un peu partout tout le temps. Donc, je trouvais ça pratique de faire un tableau ailleurs, perso, quoi.
Moi, de toute façon, Rémi, je suis totalement d'accord avec toi, parce que dans d'autres domaines, je procède de la même façon. J'exporte des données de marques connues, de GPS ou autres, pour les mettre dans des docs Excel. Je sais que c'est un peu con, mais j'aime bien aussi. Ce que je te propose, Rémi, c'est pour nos auditeurs, pour ceux qui ne savent pas, on a un Twitter, @joggingbonito. Ça serait pas mal que tu me mettes des exemples de ton tableau.
Ouais, carrément, on va faire ça.
Qu'on se fasse une petite idée un peu de ce que ça représente. Donc, écoute, super pour cette première chronique. Bravo, félicitations.
Non, mais sans vous, je ne ferais rien.
Voilà, et j'ai envie de dire fin de la séance. On va poursuivre avec David. David, c'est bon, t'es chaud ?
Chaud.
T'es chaud ? Bon, alors David.
Vas-y, lance-moi.
Ouais, David va nous parler de #BNDDo, #Healthy, sur son livre, donc Les 1000 et une façons de retrouver the motivations. D'ailleurs, je crois que la 992e, c'est Anne Dubindidu himself. J'ai hâte d'arriver à la 992e, parce qu'elle me fait kiffer un peu. Vas-y, David, nous t'écoutons.
Ok. Récemment, mes amis, j'ai connu une baisse de motivation à cause d'une blessure sans doute provoquée par le drop réduit d'une chaussure pour laquelle j'ai sacrifié de mon cœur une partie des cadeaux d'anniversaire de mes enfants. Pour retrouver l'envie de me sublimer et préparer un 100 km, j'ai activé les trois leviers qui d'habitude me transcendent à l'entraînement. La musique, les sentiments et le savoir. J'ai donc crapahuté des dizaines de kilomètres avec l'intégrale de Mylène Farmer dans les oreilles, toujours pas interdit par la FFA. Puisé dans mes souvenirs la collection complète de mes conquêtes sentimentales depuis la maternelle, finalement plus adaptée à des séances de sprint, ou enfin téléchargé dans Nike Plus Rémi, le pack de voix qui vous annonce distance, temps de course, allure moyenne en temps réel, dénivelé, puissance, hauteur et longueur de la foulée, VMA, VO2 max, fréquence cardiaque, calories dépensées, IMC, météo, rendez-vous dans l'agenda, horaire de bus, solde de vos comptes ou autre TABC.
C'est quoi TABC ?
Ouais, je sais pas.
Temps avant bière dans le canapé.
Ah,
j'en mets.
Puis j'ai sollicité la bienveillance et les encouragements de Valmont, qui a d'abord voulu me soumettre à un test de connaissance sur les 100 bornards au paléolithique, et m'a demandé d'apprendre par cœur le palmarès complet des championnats du monde de la spécialité depuis 1987. J'ai refusé, elle m'a traité d'imposteur et bloqué sur Twitter.
Ouais, je suis d'accord avec elle, j'aurais fait la même.
Enfin, j'ai fait appel à un coach virtuel en téléchargement, GPs, une application pour smartphone qui n'a aucune intention de vous contrarier et vous concocte des plans personnalisés pour atteindre n'importe quel objectif chrono. Vous courez le 100 km en 12 heures, vous voulez le courir en moins de 9 heures dans 3 mois, pas de problème. Voilà les séances que nous pouvons vous proposer. En moins de 3 heures, ok, why not ? C'est un peu court, mais suivez nos conseils. Bref. J'ai mobilisé tous les éléments permettant d'accroître la motivation de tout athlète de haut niveau normalement constitué comme moi. Et j'ai échoué. Kilomètre 58, j'ai rendu mon dossard. Bye bye, champion.
Bonjour.
Quelques jours plus tard, je suis tombé sur le tweet d'Anne Dubindidu, qui annonçait la sortie de son livre intitulé « La magie du running ». M'en remettre au pouvoir surnaturel de ma fée embrassière préférée, je n'y avais pas pensé. Rapidement, cette annonce a fait l'objet de railleries sur les timelines, mettant en cause la légitimité de l'auteur de l'ouvrage. Instinctivement, j'ai eu envie de prendre la défense d'Anne, pas seulement parce que son potentiel sensualité m'incite à penser que son livre est sans doute une référence en matière de running, hashtag féminisme. Certes, elle me follow sur Twitter, répond à mes DM et like certaines de mes photos sur Instagram. Toutefois, n'y voyez pas d'opportunisme de ma part, même si je ne cracherai pas sur une mention sur son Snapchat pour m'offrir de la visibilité et donc obtenir plus de produits de la part des marques. Oh, quelle belle surprise dans ma boîte aux lettres ce matin. Non, mais si j'éprouve le désir de défendre Anne, c'est aussi pour répliquer à la flopée de spécialistes sur les réseaux qui ont décrété que son bouquin était aussi illégitime qu'un guide du savoir-vivre en société écrit par Serge Royer. Ils étaient nombreux.
Mais mon gars sûr.
Ils étaient une fiotte. Ils étaient nombreux à démolir le livre avant de l'avoir lu. Et pour ma part, j'ai envie de dire en toute sérénité, c'est de la violence gratuite! Mais pour déterminer si Anne de Bendidou est légitime pour écrire un guide de la course à pied, je pense qu'il est préférable de vérifier si elle a un peu bossé son sujet et si ça peut porter, si ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Notez que par provocation, mais en vérité pour saluer le courage que nécessite l'écriture d'un livre, j'ai retweeté l'annonce de la sortie du livre en guettant les réactions. Résultat, j'ai vu passer les commentaires positifs, mais j'ai également lu chez certaines personnes de la stupeur, des ricanements et des critiques dures. Ce qui ne les a pas empêchés de me demander en privé comment je me l'étais procuré. Autrement dit, savoir si c'était possible de l'avoir gratos. Je précise que j'en ai fait l'acquisition sur mes propres deniers, car Anne a dû oublier de m'envoyer un exemplaire dédicacé. Bref, comme j'avais du temps à tuer lors de mes dernières vacances chez Belle-Maman et une chronique à rédiger, je me suis plongé dedans. Ainsi, j'ai habilement pu esquiver le moment où, à table, les beaux-parents félicitent mon ingénieur de beau-frère qui a déposé de nouveaux brevets avant de s'intéresser à mon cas par charité chrétienne. T'as bien couru aujourd'hui ? Concernant le guide, comme son nom l'indique, il s'agit d'un guide. Rarement on fait appel à un guide pour visiter un lieu qu'on connaît déjà bien. On peut en déduire qu'il s'adresse à la nana qui a décidé de commencer chaque journée comme si elle avait été écrite pour elle. Will Smith dans Hitch, chef-d'œuvre cinématographique. Oui, la nana qui veut cesser de courir après sa raison d'être, mais va se mettre à courir juste pour être. Elle est déterminée à libérer son potentiel, à dépasser ses propres limites, à réveiller le petit soleil qui sommeille en elle. Autrement dit,
hashtag train hard, win easy, c'est ça ?
C'est ça, win easy. Healthy choices. Autrement dit, elle veut une nouvelle vie sans passer par M6 et elle pense que c'est à travers la course à pied qu'elle va enfin devenir quelqu'un d'exceptionnel en 5 étapes. Et métamorphose physique à la clé, car il ne faut pas se leurrer, c'est aussi ça qui la motive, elle risquera bien de percer en brassière sur Instagram. C'est d'ailleurs sur Instagram qu'elle nous apprendra qu'au collège, elle s'arrangeait pour être indisposée les jours où il y avait endurance. Je sais, je l'ai fait, hein. Elle nous racontera à la larme, à l'œil, sa première médaille de finisseuse à la Color Mirade. Et si elle tourne mal, c'est-à-dire si elle atteint 10 000 followers, elle commencera à employer un ton de donneuse de leçons avant de fermer définitivement son blog pendant une semaine, ou son compte pendant une semaine, hurlant à qui veut l'entendre que les relations qui s'y développent sont moins authentiques que dans la vie réelle. Je caricature bien sûr, mais vous l'avez compris, les débutants sont la cible du livre d'Anne de Bendidou. En particulier les jeunes débutantes. Restez calme, bande de pervers. Astuce, point glamour.
Les débutantes.
Page blanche pour reporter ses premiers résultats ou faire sa wishlist. Mais aussi séance type pour se lancer sans prendre de risques ou programme pour préparer des distances allant du 10 km au semi-marathon. Le tout illustré par des petites traces de pas ou des silhouettes en mouvement. Sur le fond, elle répond de façon quasi exhaustive aux questions que se posent les coureurs novices. Équipement, alimentation, organisation d'une course. Ça peut parfois sembler élémentaire, mais je pense à ma première compétition courue avec des tennis, un trail, ou à la fois où j'ai acheté une montre cardio à la place d'une montre GPS. Et ouais, punissez-moi. C'est du bon sens à l'attention des personnes un peu paumées qu'il faut éduquer. Je me mets à leur place quand j'ai besoin d'un guide pour apprendre le crochet ou le potager. Dans le bouquin, ça parle aussi de corps, de biomécanique, de bien-être, de nutrition. Ça explique les bienfaits de la PPG, de l'intervalle training, du cross-training. Ça définit des termes comme VMA, FCM, anaérobie ou fartlek, que Anne de Bendidou définit comme le cousin baba cool du fractionné. Ce serait vraiment condescendant de nier que le bouquin pourrait m'aider à remettre en cause ma façon de m'entraîner. Parce qu'en réalité, nous sommes nombreux, coureurs hors stade, non licenciés, à ne pas posséder les bases, à toujours s'entraîner de la même façon, à manquer d'ouverture d'esprit. La complémentarité du yoga, par exemple. Non pas pour immortaliser des positions suggestives putain-like, mais comme moyen de compenser des défauts, ouvrir le bassin, assouplir le dos ou renforcer les articulations. Elle nous rappelle comment éviter les petites erreurs comme le fait de s'organiser pour ne pas courir stressé et ainsi éviter les blessures, faire des séances quali et s'améliorer. Honnêtement, moi qui ai plus d'années de pratique, je pourrais largement envisager de faire appel à ses services comme coach. malgré ses 5 petites années d'expérience. D'ailleurs, sur la quatrième de couve, l'éditeur parle de conseil d'une pro, entre guillemets. Pourquoi des guillemets ? À travers l'écriture de ce livre, on comprend qu'elle s'est beaucoup documentée. Ça lui donne du crédit, je trouve. Assume ton statut, Anne. Coach-moi plus fort. En fait, ce qui gêne les haters, c'est Anne de Bendidou elle-même, plus que ses compétences. À mon avis, ils n'ont pas compris qu'Anne n'est pas une blogueuse comme les autres. Anne, c'est une personnalité, une marque, la preuve, elle a déjà une box à son effigie. On l'aime et on la suit. Alors oui, il y a un côté gourou chez elle, mais sa passion ne vaut pas moins que la nôtre. Personne n'est dupe, c'est son business, mais il ne faut pas penser que c'est malsain. Elle veut consacrer sa vie à nous convaincre. Courir m'a rendue heureuse, vous devriez essayer. Ce livre, c'est l'expression d'un mode de vie, du mode de vie d'Anne de Bendidou. Elle nous confie tous ses tips pour s'épanouir en course, et moi, en tant que fervent défenseur de la cause running, je me réjouis de sa contribution. Je ne suis pas de ceux qui voudraient garder le trésor pour eux, s'approprier ce sport, en édicter les règles et bannir ceux qui se risqueraient à le faire évoluer. Anne de Bendidou, c'est notre pop star, et à travers cette initiative philanthrope, qui est la magie du running, elle nous offre le privilège d'entrer quelques instants dans son univers plein de positivité, de nous identifier et d'être fort pour aujourd'hui et pour demain. Be strong, pour reprendre sa formule préférée, que désormais je ferai mienne.
Oh bah super David, merci beaucoup. J'ai quand même une question à te poser, je pense que tous les auditeurs vont se poser la même. Tu peux revenir un peu là sur les positions de yoga subjectives ? Est-ce que tu as des exemples, des trucs comme ça ?
Regarde.
Ça m'intéresse.
Regarde. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ah, pas mal. Et donc ça, c'est Anne de Bendidou, ça.
Ouais, c'est Anne de Bendidou. Mais c'est du
d'accord,
travail.
Donc je pensais qu'elle faisait que des photos habillées. Et bah non, donc tu viens de me montrer la preuve qu'elle en fait des nues aussi.
C'est ça le showbiz.
C'est le showbiz.
On va tout savoir. Les coulisses et tout.
Exactement.
Les coulisses d'Instagram.
On n'est pas du show business ici.
On n'est pas du show business, non. Oh non. Les gars, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette chronique de David. Moi, perso, je donne juste mon avis. J'aime bien le personnage. Je trouve qu'elle est sympathique sur les réseaux sociaux. Elle donne pas l'impression d'avoir la grosse tête et c'est ça qui la rend agréable, contrairement à certaines. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, Emir, il a l'air chaud comme une baraque à frites.
Oui, j'ai envie de réagir sur le sujet, parce que je me demandais justement, quand on a affaire à une personne donc, qui fait sa vie, on va dire, sur Instagram, qui prône le LC, etc., comment, à quel moment, tu dis, David, d'avoir instinctivement eu envie de prendre sa défense, à quel moment est-ce que tu te ranges du côté de cette personne, à quel moment tu perçois sa sincérité, et à quel moment tu te dis, elle ne fait pas ça pour sa thune, elle fait bien ça pour véhiculer un message, et donc tu adhères, en fait, tu adhères au message, c'est ça que je me demande.
Non, mais déjà, j'ai jamais nié que c'était son business, pas du tout. Toi, tu parles de la thune, mais c'est son travail. Hein. Je pense que c'est sa vie, donc je pense que ce qu'elle fait, c'est pas malsain. Et donc, à quel moment je m'intéresse, on va dire, c'est que j'avoue, hein, c'est aussi par opposition parce que moi. D'emblée, j'ai jamais d'a priori sur les gens, et je trouve que tout travail mérite qu'on s'y penche, qu'on regarde un petit peu la sincérité de la démarche, etc. Et je trouve que la sortie de ce livre, ça illustre bien l'a priori des gens, c'est que ce livre, il est juste fait pour un public de débutants, de personnes cool, célibataires, sans enfants, etc. C'est un livre que j'ai trouvé personnellement assez humble. Et en général, on accuse Anne de Bendidou tout l'inverse, en fait. Alors, c'est sûr qu'il y a le culte un peu de sa propre personnalité, etc. Mais comme je le disais dans la chronique, c'est t'es une petite star de la communauté, c'est son job, voilà. Je trouve pas ça honteux de vouloir vivre de ça, de faire ça. Je pense que j'ai pas le sentiment que elle ment aux gens et donc voilà, je pense que elle a pas. Je pense que dire elle fait ça pour l'argent, je trouve ça hyper péremptoire, en fait, finalement.
Je dis pas l'inverse, moi je connais absolument pas son travail, mais je critique gratuitement ce genre de choses, tout simplement parce que j'aime le faire. Voilà. Merci David.
Bravo Rémi. Rémi, je crois que tu voulais rebondir sur la réponse de David, il me semble, Rémi, non ?
Moi je trouve que les histoires d'argent, c'est un peu des vieux tabous franco-français. C'est bon, il y a des gens qui gagnent de l'argent en faisant des trucs sur internet, c'est moderne, c'est la vie, c'est comme ça. Les jalousies viennent que d'autres aimeraient le faire, mais n'ont pas le courage ou l'investissement en temps.
C'est très dur d'écrire un livre. Il faut admirer
ça. Tout à fait d'accord avec toi.
Il faut admirer ça.
Après, voilà. Moi, je connaissais pas du tout, et c'est parce que tu m'en as parlé que j'ai été voir Anne Dubendidu, et ça m'a montré plein de choses que je connaissais pas, mais deux trucs. Moi, j'en retiens deux points. Il y a tout un univers autour de la mode du running et tout ça, et qui se vend, il faut des gens qui s'affichent et qui font le business autour de tout ça, et c'est très bien. En tout cas, c'est pas négatif.
Dans son livre, elle explique, elle insiste pas mal sur le côté privilégier votre confort, etc. Tu vois, pas sur. Elle dit la mode, etc.
Elle est plus sloggy que string et tout.
Si je peux me permettre. J'imagine. Pour reprendre ce que tu disais, Rémi, que aujourd'hui il y a tout un truc sur la mode du running, il faut qu'on s'affiche et autres. Je fais juste une petite aparté sur ce truc-là. Aujourd'hui, ce genre de poste fonctionne parce qu'il faut pas se leurrer, les personnes qui font la promotion pour ces habits sont quand même des personnes plutôt sexy, plutôt sympas. Demain, j'écris un livre, je me mets en brassière et en mini-shorty, moi-même, Émile, sur Instagram. Je ne pense pas que j'aurai les mêmes retours que Anne Dubendidu ou autre. Donc voilà,
elle sait jouer avec ça.
Après, si vous voulez, je pourrais le faire. Ça, c'est pas un vrai souci, mais non, mais elle sait jouer avec ça et non.
Just do it.
Ouais, voilà. Et en plus,
pour le bien de ce monde.
En plus, petite parenthèse, je trouve que dans le livre, contrairement à son compte Instagram, etc., les photos sont vraiment pas terribles, quoi. Pour le coup, les photos mettent pas vraiment en valeur Anne, quoi.
Enfin, c'est bon, les gens, ils ont acheté le livre, ils ont pu avoir.
Je pense que c'était pas vraiment le but. C'est là où elle est maligne. Peut-être que avec des photos plutôt standards, elle a voulu plutôt mettre en avant son conseil que elle-même dans le livre.
Ouais, faut relativiser ça quand même.
Belle lecture du match.
Bien essayé.
Ouais, voilà. Merci. Non, mais enfin, pour moi, il y a deux grands livres. Il y a Born to Run, il y a Bruno Hobby, les 100 km, et Anne Dubendidu. Voilà. Et après, en dessous, il y a Kylian Jornet. Bon, ça fait 4. C'est bon.
Rien écrire du tout, d'ailleurs, Kylian.
Non, mais pour un petit bouquin un peu pédagogique, pour les débutants, je trouve que c'est un travail, son travail, il est, bah, moi je l'ai trouvé remarquable. C'est un bouquin, il doit peut-être avoir 250, 300 pages. Il y a du boulot. Honnêtement, il y a du boulot. Il faut mettre ça en valeur. Faut pas juste derrière son ordinateur dire, elle a fait un livre, mettez-vous au boulot, les gars, vous avez des idées, etc.
C'est le principe du troll en même temps.
C'est le principe,
c'est le principe du troll, quoi.
On est d'accord avec toi. Attends, vas-y Rémi, tu
Non, on frise le bashing aussi, hein, de temps en temps. Mais bon, voilà, le troll, pas de souci. Hein.
Ouais, mais ça fait partie des réseaux sociaux. Laisse parler Rémi qui voulait réagir, là.
Oui, parce que moi je suis un garçon qui a de la suite dans les idées et j'ai pas dit mon deuxième point. Donc le deuxième point, c'est que quelque part, en dehors du livre, le personnage d'Anne Dubendidu, parce qu'on glisse doucement sur le personnage en plus de son livre, parle de la mode et de la mode chez les filles qui courent. Et en l'occurrence, moi, ça m'a fait découvrir qu'on pouvait prendre du plaisir à être bien habillé pour courir, alors que bon, comme beaucoup, moi je cours avec des vieux t-shirts les plus nasses possibles, pas forcément arrangés. Mais c'est vrai qu'il y a un créneau. Moi, je trouve que pour les mecs, en tout cas, il y a très peu d'efforts qui sont faits, même si je sais que des petites améliorations existent à droite, à gauche. Je trouve qu'il n'y a pas trop de mode autour de la course à pied qui, en tout cas, me donne envie d'acheter avec plaisir ou génère le désir d'acheter leurs produits, quoi. Enfin, pour faire un deuxième point bis, sur le côté livre, là, par contre, Moi, j'en ai un peu rien à carrer de livres de course à pied, peut-être parce que je suis déjà assez avancé, mais surtout aujourd'hui, moi, ça me parle pas. Hein. Il y a peut-être des gens qui ressentent le besoin d'acheter un livre pour avoir un guide, mais on trouve un peu tout sur le net. Les réseaux sociaux, ça cause super vite. Des blogs, en veux-tu, en voilà. Tout le monde a fait son billet, comment bien commencer à courir ou comment s'améliorer à courir. Je trouve que l'apport d'un bouquin, ou en tout cas, moi, c'est pas un achat que je conseillerais à quelqu'un qui débute, parce que je trouve que il y a plein de choses dispo gratos, et je trouve pas ça super pertinent.
Et honnêtement, je vais même te dire une chose, Rémi, c'est que pour faire suite aux gens qui ont fait des billets sur comment bien commencer à courir ou bien progresser à courir, j'ai fait un article sur mon blog qui est comment s'arrêter de courir, qui a eu un franc succès. Non, et pour revenir sur le marketing des vêtements, on y reviendra plus tard, plus en détail avec Émir, qui va plus nous en parler. Moi ça me choque pas son bouquin, c'est sympa, ça fait de mal à personne, c'est sans prétention, c'est agréable, elle a bien sa barque, David est amoureux d'elle, voilà quoi, tout est très bien quoi.
Oui, ça peut-être ça choque pas, mais moi je trouve personnellement que ça c'est pas un truc que je conseillerais, parce que je trouve que tout est dispo ailleurs facilement et gratos.
Honnêtement,
ouais, mais d'un côté, tu trouves vraiment que du générique en fait sur le net. Tu trouves des trucs hyper génériques, tu sais pas qui les a écrits. Quand tu t'es attaché à un personnage que tu suis tous les jours sur Instagram, tu t'en fous de ce que les autres vont dire. Tu kiffes ce que ton gourou entre guillemets a dit.
Mais c'est exactement ça.
Ok.
Mais c'est exactement
autre chose.
Moi, c'est pour ça que j'attends le livre de David.
Ah
ouais,
parlons-en.
Comment courir un 100 km en 58 km?
C'est ça.
Ça part en clash gratuit.
À cloche-pied avec une semelle en carton.
Tout dépend de la qualité du suiveur, hein, tu sais.
C'est ça, il paraît.
Tu pourrais mettre ton diplôme sur Twitter, ça nous arrangerait.
Ouais. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vient de dire Rémi. Pour nos auditeurs, là, allez sur le Twitter @joggingbonito et n'hésitez pas à commenter les chroniques. Hein. On vous répondra. Enfin, Rémi vous répondra.
Ou pas.
Voilà. Voilà. Non. Mais là, on va passer donc sur un autre sujet. Hein. On va faire un peu suite dans les idées de la chronique d'avant, surtout ce qu'est le marketing. Dans le running, est-ce notre ami ou notre ennemi? Donc Émir va nous emmener un peu dans les arcanes donc de ce principe.
Ça c'est un mot stylé ça, les arcanes.
Ouais, arcanes c'est classe. Hein.
Ça fait c'est pas mal du tout.
C'est pas un tropisme.
Bernard Pivot. C'est ça. Et donc voilà.
Ce vocabulaire est coruscant.
Voilà.
Ouf.
On est sportif. Dur. On est sportif et intelligent. Attention les gars.
Mais on sait pas parler.
Voilà. Donc Émir va nous faire sa petite chronique sur notre relation avec la société de consommation et quel levier utilise le marketing dans ce milieu du sport pour nous faire passer à l'acte. Émir, c'est à toi.
C'est parti, bon, très bien. S'il y a bien un truc que je déteste dans la vie, c'est d'être moqué, c'est qu'on se foute de ma gueule. C'est pour ça que je fais de l'introspection et de l'autodérision au quotidien. C'est un petit peu comme l'exercice physique, comme toi et ton défi planche sur Facebook. Je pense que celui qui sait se remettre en question et se moquer de lui-même est invulnérable. Je préfère donc anticiper pour éviter que quelqu'un se donne la joie de me prendre pour un idiot ou pire, de décider à ma place. Je passe des heures à réfléchir à mes choix, des plus superficiels aux plus fondamentaux pour valider leur légitimité. Pour ne jamais perdre la face, vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis des autres, quelle que soit la situation. Est-ce que je me ferais manipuler par une marque, moi? Puissante comme elles sont, rien n'est impossible. J'irai même plus loin, c'est presque comme jouer une partie d'échecs avec un adversaire qui peut rentrer dans ta tête. Mais on n'est pas là pour me psychanalyser, mais bien pour parler de running. Je viens donc à la question qui sera ma ligne directrice, notre relation avec les marques et les produits qu'elles proposent. Pour le meilleur ou pour l'argent, pour nous aider ou pour nous saigner. Il y a ce moment où tu tombes sur ce produit, et là, tu sais déjà ce qui va se passer. Ah mais t'as vu cette veste? Avec ça, t'es le roi de la piste. On regarde plus que toi. Regarde, c'est étanche, c'est déperlant. Il y a une poche pour iPod, il y a un petit trou pour les écouteurs. Et avec ça, t'as plus aucune excuse pour ne plus aller courir quand il pleut. Ça va te motiver à être plus régulier. Et puis, mieux vaut en acheter une de qualité maintenant au lieu d'en acheter une bas de gamme et devoir changer tous les 3 mois. Puis ça fait justement 3 mois que je me suis rien acheté. Et c'est pas comme si c'était inutile. Et puis, ça me fait du bien quand je cours. Puis bon, après, je m'achèterai plus rien pendant 6 mois. Allez, je la prends. Et puis, si tu vas avec un pote pour nuancer ou valider ton choix, la finalité sera la même. Soit il est lui aussi pris au piège, auquel cas il se fera la meilleure antenne commerciale gratuite du monde, soit il ne l'est pas, auquel cas il ne fera que freiner l'inéluctable. l'échange de cette veste contre ton bras gauche. Tu sors du magasin en tâchant encore de te convaincre que ton choix était le bon. Tu observes cet objet qui est maintenant tien et tu t'étonnes. Cette joie qui aurait dû être aux premières loges, mais où est-elle? Elle est cachée. Cachée derrière la culpabilité d'avoir cédé, qui tournoie derrière tes yeux de gamin qui vient de faire une bêtise et qui se défend instinctivement à coups de « mais c'était pas ma faute ». Tu tentes de la chasser avec des arguments bancals qui ne sont que les armes de ta faiblesse. Ta conscience nage en pleine dissonance. Tu te demandes « qui a décidé de l'issue de cette histoire ? Toi ou le marketing ? Toi ou la marque de ta nouvelle veste ? Ou ce magasin qui l'a posé sous tes yeux et mis en scène dans un décor stylé ? Ou ces affiches aguicheuses qui t'ont attiré dans ce magasin dans l'espoir de se tailler la plus grosse part possible du fruit de ton labeur ? 400 balles quand même, un tiers de SMIC quand même. Surtout pas ton banquier, surtout pas ta raison, surtout pas ton instinct, ni ta méfiance, ni ton sixième sens. La marque, c'est un pêcheur, le marketing est sa canne, et le produit, c'est un hameçon. Toi, tu es le poisson. Ce triste poisson dont l'attention a été captée pour le prendre en embuscade. Le pêcheur te fait miroiter un produit, le hisse au rang de désir presque hors de portée, mais en même temps si accessible. Et puis tu croques, et ça fait mal. T'es pris au piège, tu t'es fait avoir. Comment ce tour de force est-il possible ? Le running a bien un avantage. Il justifie toute dépense, si aberrante soit-elle, par le simple et puissant fait qu'il est un loisir sain. La meilleure des drogues, dit-on souvent. Celle dont le statut d'addict est une fierté telle qu'on l'arbore volontiers sur un t-shirt. Bah oui, quoi. C'est pas comme si je mettais mon argent dans l'alcool ou dans les clopes. Il y en a qui sortent tous les soirs en boîte. Moi, mon truc, c'est le running. Ensuite, parce que les marques sont manipulatrices. Elles jouent habilement de messages universels qui nous sont chers, auxquels tout le monde voudrait pouvoir s'associer. Elles savent ériger un produit au rang de désir. Elles savent nous séduire en nous montrant le futur nous, meilleur et plus heureux contre seulement une poignée d'euros. Mais sérieusement, et si le vélo ne faisait pas le cycliste, la caméra le cinéaste et les chaussures le coureur? Est-ce qu'un véritable allié me ferait croire que j'ai besoin d'objets, aussi beaux soient-ils, pour avoir un ego? Est-ce qu'un véritable allié me ferait miroiter des raccourcis vers des résultats qui n'existent pourtant pas? Est-ce qu'une marque qui veut vraiment me rendre meilleur aurait besoin de tout édulcorer? Peut-être, après tout étant gamin. Tes parents te faisaient l'avion pour te faire bouffer tes légumes. Ils te manipulaient, mais ils le faisaient pour ton bien. Ils savaient que c'était mieux pour toi et qu'ils devaient vaincre ta méfiance pour t'aider. Mais non, la marque, c'est pas tes parents. Ce qu'elle veut, c'est son bien avant le tien. Elle t'influence dans son intérêt. On le sait tous au fond, mais on cherche des excuses pour céder et continuer à consommer, car c'est plaisant. Elle fait mine d'être à mon écoute et proposer des produits qui me correspondent, mais au final, c'est sans une once de sincérité. Mais faut-il vraiment se torturer l'esprit, les gars? Au final, pourquoi est-ce que ce serait mal de se payer une veste? C'est pas parce que cette marque veut me vendre ses produits que j'ai tort de les acheter. Si ces produits sont bons pour moi. Tout ça ne peut pas être que de la poudre aux yeux. Ce gel Overblast à 3€, il y a une recherche et développement derrière. Il y a des chercheurs, il y a de la science, il n'y a pas que du marketing. C'est bien normal qu'il soit cher. Et puis ces marques sont réputées. Elles doivent sûrement se payer les types les plus qualifiés du monde pour produire des technologies de plus en plus efficaces. Alors oui, le marketing me veut et il a des armes aussi tristement banales qu'efficaces. Des infographies hyper stylées. Des nanas au corps de rêve dont la sueur ne fait pas couler le maquillage, des types bodybuildés qui se marrent pendant qu'ils soulèvent trois fois leur poids. Oui.
J'ai aimé le bodybuildé, non?
Ouais, ouais. C'est ça.
C'est ça, ouais. Bon, je reprends. Mais si je sais tout ça, et que je suis en connaissance de cause, si je sais qu'on se joue de moi et que la situation me convient, n'est-ce pas là l'expression de ma liberté? C'est tellement stylé et valorisant de pouvoir partager quelques selfies avec cette veste. Et au final, est-ce que c'est ça qui fait notre sport? Est-ce que c'est ça qui fait au travers de ce qu'on porte ou ce qu'on dégage à l'extérieur? N'était-ce pas plutôt de kiffer à l'intérieur la satisfaction d'une séance réussie? La douce valse des hormones après une séance éprouvante? Le sentiment d'accomplissement personnel? C'est ça le running aujourd'hui? Vivre son sport au travers du regard des autres? Être stylé parce que t'as la montre GPS Phoenix 1000 ou la ASICS Meta Turfu? Bof, c'est puéril, c'est matu vu. Mais il faut admettre que j'ai envie d'y jouer moi aussi. Alors à quoi bon faire semblant de pas être un mouton et de faussement m'élever pour plaire à des gens qui soi-disant se distinguent? Des gens qui croient être plus malins que moi parce qu'ils ont juste eu le culot de me traiter de pigeon? Croient-ils qu'ils valent plus parce qu'ils achètent moins? Je te l'ai dit, j'aime pas qu'on se foute de ma gueule, à tel point que je préférerais presque acheter un produit qui ne cherche pas à se vendre même s'il est moins bon. Mais vu que je sais que c'est stupide, je suis prêt à acheter le même produit que tout le monde parce qu'il est meilleur, quitte à ne pas me démarquer. Mais ça n'empêche pas qu'à l'heure où je te parle, j'hésite toujours avant d'acheter un produit. En ai-je vraiment besoin? Suis-je manipulé? L'écart de prix est-il justifié d'un vrai écart de qualité ou de valeur ajoutée? Ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup. Cette infographie en fait trop, elle me prend pour un imbécile. Je suis pas crédule, moi, mec. Si j'achète ce produit, c'est parce que je sais qu'il est bien et qu'il me sera utile, pas parce que je crois ce que tu veux me faire croire. Bon, allez, tu le prends car t'es manipulé, mais en connaissance de cause, donc l'ego est satisfait.
Merci, Emir. Bon, je tiens quand même à préciser que cette chronique est sponsorisée par ASICS, Nike, Salomon, Adidas.
Placement de produits.
et Soconi, Puma, Anne Lubindidu, et voilà.
Kawe.
Non mais hein?
Kawe.
Et Kawe, bien sûr, Kawe. Tout
chaque
à fait.
Représente.
Ouais, bah écoute, encore une chronique intéressante. Tain, en fait, je suis entouré de mecs qui font des chroniques toutes plus intéressantes les unes que les autres. Okay, tant mieux, c'est le but du podcast. Bah, je sais pas, David, Rémi, est-ce que vous avez des choses à dire à ce sujet, le marketing? Êtes-vous des pigeons? Êtes-vous le pêcheur? Êtes-vous l'hameçon?
Ah bah, moi, je suis complètement le pigeon de tout le temps, en fait. Je me fais plumer à gogo.
Un peu comme...
Ouais, mais peut-être moins un peu plus, parce que moi, j'ai racheté des jeux d'électrodes pour le complexe, tu vois. C'est l'étape d'après, quoi. Oui. Beaucoup trop loin. Ouais. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on est tout le temps dans ce moteur du désir de l'achat qui est super bien mis en scène par le marketing. Hein, les mecs, ils savent faire. Hein. Et il y a plein de raisons qui génèrent le désir en nous. Et toujours frustré de tomber ensuite dans cette... pseudo-déception une fois la pulsion de l'acte d'achat passé, avec parfois une once de culpabilité, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que c'était pas exagéré ce prix, etc. Moi, ma vie, ça n'est que ça, ou presque. Chaque fois que j'achète un truc, ah putain, j'exagérais, c'est vraiment relou, t'es incorrigible, et puis en même temps, ouais, mais bon, faut bien vivre, nanana, tu vas pas être enterré avec tes sous, que sais-je. Mais
c'est la dissonance, ouais, c'est la fameuse dissonance. Ouais.
Ouais, je suis à fond là-dedans et je comprends à fond ce que tu veux dire avec ta chronique. On veut pas se faire baiser parce que on travaille quand même tous dur pour avoir un peu de sous sur notre compte en banque.
Mais toi, Rémi, tu dis que t'es le gros pigeon là-dedans, là, mais toi, tu la fixes comment la limite? Elle est où ta limite au craquage pour le matos? C'est quoi? C'est un certain prix? C'est un niveau de technicité? Je sais pas comment tu.
C'est quoi ce qu'il y a sur mon livret A? La limite, c'est ce qu'il y a sur mon livret A. Si l'argent est facilement accessible, c'est trop facile. C'est... Bon,
pour donner un petit ordre d'idée à nos auditeurs, sachez que toutes les chroniques sont écrites et enregistrées sur du matériel Apple, que nos casques sont du Bose. Ben par ça, on n'est pas vraiment des pigeons. Non, mais ça fait plaisir aussi de se faire avoir. On se fait avoir parce qu'on veut bien se faire avoir aussi.
Non, moi ça me fait pas plaisir. Mais
non, mais
j'achète quand même.
Je suis d'accord avec toi, Rémi. Mais le truc, c'est voilà, on est sur Apple parce que certes, il y a beaucoup de marketing derrière, mais c'est aussi un bel objet. C'est aussi pratique. Voilà, il y a pas que ça, comme disait Emir. Pourquoi est-ce qu'on devrait se refuser à acheter celui qui est le plus marketé? Alors que c'est souvent, c'est pas souvent, mais souvent c'est les meilleurs produits.
C'est parfois le meilleur, ouais. Ouais,
c'est parfois le meilleur. C'est parfois le meilleur. Parfois.
Bah, au-delà de ça, je pense que Emir et lui, ce qu'il revendique, c'est le droit de faire comme tout le monde, si c'est bon pour lui, en fait, plus généralement. C'est ça,
oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sûr. Mais il y a des petites gaillards qu'on voit énormément sur les smartphones, bah, sur les iPhones. On traite de pigeon directement le gars qui a acheté l'iPhone le jour de sa sortie. Mais si, je sais pas, si ce type, il en avait besoin, par exemple. Hein. Je fais pas une ode à la consommation, hein, loin de là, mais si ce type, il en avait besoin à ce moment-là et que ce produit lui correspond, pour moi, ça va bien. Ça va bien, même s'il y a tout ce marketing derrière, en fait.
Bien sûr.
C'est un des messages de la chronique, ouais.
Parce qu'à ce moment-là, tu manges plus rien, t'achètes plus de voiture, t'achètes plus. De toute façon, aujourd'hui, tout. Enfin, derrière chaque pub, derrière chaque, même quand tu regardes à la télé, tu as des pubs sans marque, juste pour le kiwi ou la pomme de terre. Donc même un produit plus simple qu'il est est marketé. Donc oui, ça fait partie du jeu.
Attends, là moi ce que je pense, qu'il faut pointer du doigt, c'est l'exagération. Donc là on se fait un débat consommation dans la société ou dans la course à pied, mais c'est l'exagération. Et l'exagération, pour moi, elle vient quand des mecs à fond dans le marketing en sont à créer par exemple, des box de course à pied ou de running, comme on en a vu fleurir sur internet, des blogs ou quoi, où les mecs vont, contre une somme délirante par rapport à ce qu'ils proposent, t'envoyer un colissimo, comme quand t'étais en colonie de vacances, avec trois gels bidons, un élastique pour mettre autour de ta tête pour pas que la transpiration elle coule dans tes yeux, et ils vont te vendre ça 47,99€ sans les frais de port. Et merci de t'abonner parce que la semaine prochaine t'auras un poster de Daddy the Beat en 4x3 pour mettre dans ta chambre.
Je m'abonne direct. J'espère bien.
Ça me coûte
cher. Ça, les excès de marketing, et c'est ça qu'on veut pas. Après, ce qui est difficile, c'est de c'est de quand il y a des produits sont bons, mais ils sont parfois surdimensionnés par rapport à nos besoins. Je veux dire, quand on va faire son footing dans notre tour à côté de chez nous, comme on fait un peu tous, et qu'on va courir 10 bornes, qu'est-ce qu'on a besoin de vestes ultra techniques en Gore-Tex active, renforcée en event au genou, quoi.
Parce que ça nous rassure. Moi, quand je vais courir mon 2 km, je suis content de savoir que ma montre peut tenir plus de 50 heures d'autonomie. On sait jamais, si jamais je me perds.
Ouais,
voilà, si jamais je fais une rencontre.
Ça que moi j'aime pas trop, c'est qu'il y a des produits qui sont surdimensionnés par rapport à ce dont on a besoin.
Et qu'est-ce qu'on en a à faire, par exemple, en automobile, que la voiture monte à 300 km/h alors qu'on peut rouler qu'à 130. Voilà, ouais, ça fait partie du jeu.
C'est un jeu, mais qui moi parfois m'agace, et puis je suis content et que je le reconnais. Et un des pièges classiques, c'est de je le sais parce que je tombe souvent dedans, de croire que le plus cher sera le mieux. Des fois, non, vraiment pas. Et
disons que le un peu moins cher peut suffire aussi. Tu vois, enfin, il y a ça aussi.
Ouais.
Enfin, moi, personnellement, j'ai fait le deuil de chaque fois de chercher toujours le mieux, quoi. Il y a des choses qui conviennent à mon niveau, à mon besoin, et je m'en satisfais. Peut-être contrairement à toi.
Mais c'est vrai que le benchmarking, ça peut être un truc sans fin, mais.
Ouais.
Carrément. C'est 56 jonglés quand t'achètes une paire de pompes, 3 heures pour te décider, c'est aussi ça, la société de choix, là, enfin, voilà.
Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, David, regarde, les chroniqueurs, ce sont les meilleurs et pourtant ce sont les moins chers.
Je te raconte pas le présentateur alors.
Ah, mais lui, c'est carrément du Lidl. Lui, c'est pas le meilleur et c'est le moins cher.
Du Lidl plaqueur.
Du Lidl plaqueur, c'est ça.
Si je peux me permettre juste une petite remarque, je te coupe, Rémi, vas-y, je t'en prie.
Donc de dire que dans le benchmarking sans fin, il y a des objets qui me choquent plus que d'autres, par exemple les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, on peut trouver des trucs à 25 € qui vont faire le taf, en plus on les perd tout le temps les lunettes de soleil, enfin je sais pas, j'en perds 3 par an des paires, et il y a des paires à 300-400 € pour des lunettes de soleil. Donc là, ça me dépasse. Je veux bien qu'il y ait de la R&D ou des trucs comme ça, comme tu disais, Émir, mais il y a un moment, trop c'est trop, et on prend quand même vraiment pour des gogos, en jouant cette carte de « je vous affiche un prix cher, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à le payer, et parce que ces gens-là, en plus, sont de la race de ceux qui croient que le plus cher sera le mieux. » Donc, moi, je dis quand même qu'il y a des moments où on est quand même... un peu trop gogo, et qu'il y a plein de trucs dont on n'a pas besoin, et que la course à pied, c'est franchement un des sports qui pourrait être les plus simples en matière d'équipement pour,
et le moins cher.
Pour se faire plaisir, et parmi les moins chers, et que grâce à la masse de gens qui pratiquent aujourd'hui, les fabricants et le business a réussi à trouver l'astuce de multiplier les petits accessoires ou des détails de coloris ou que sais-je, pour que les gens achètent encore et encore. Et moi, ça me saoule un peu.
Mais même tu vois, dans une variante du running qui est le trail, où le grand truc, c'est le retour à la nature, tu vois des Anton Kuprushka ou autres qui vont courir juste en micro-short, même dans ces domaines-là, t'avais beaucoup de marketing, t'avais beaucoup de marques. Même dans le trail, le message est passé. Donc, de toute façon... Dès qu'il y aura une masse de personnes qui va se mettre dans une activité qui peut être la plus saine, la moins pourrie par le marketing ou autre, le marketing suivra. C'est une obligation. À partir du moment où tu as une cible, et ben derrière, tu as le marketing et tu as le produit à vendre. Demain, notre podcast sera marketé.
Dès demain matin.
Bah moi, j'ai toujours été nul, même à la braderie, je sais pas vendre. Alors, c'est pas moi qui vais faire. Je veux bien vous donner des photos de mon tableur, mais vendre, je sais pas.
Moi, je pense qu'on est, de toute façon, pour revenir dans ce débat, je pense qu'on est plutôt que d'exprimer une liberté, je pense qu'on est condamné à aussi à vivre avec des contradictions, j'allais dire quoi, avec nos principes, etc. Et ça, c'est un gros. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me pose problème dans le running, de toute façon. C'est que constamment, je sais un. J'ai des
un
états d'âme.
Contrarié.
Ouais, on m'a frappé. Non, mais très sérieusement, je pense qu'on est condamné vraiment à consommer, en tout cas, des produits de running, et ça nous met toujours face à nos contradictions. Et c'est jamais gaieté de cœur. D'ailleurs, c'est pas forcément lié, mais vous avez remarqué aussi que quand on achète un produit en boutique, bizarrement, dès qu'on sort de la boutique, qu'on le sort chez soi, il est tout de suite moins beau. Enfin, voilà, pourquoi? Parce que on est passé à l'acte d'achat et voilà, il y a plus le frisson, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est comme avec une femme. C'est comme avec une femme. Après qu'on l'ait consommé, on n'a plus le frisson.
Oh là, ça dérape. Moi, j'ai envie de recommencer des fois, c'est bizarre.
Ah, mais on a plus l'âge maintenant, tu sais.
Pareil pour vous, monsieur. Non, mais ce que je veux dire sur le market, et j'ai peut-être enfoncé le clou et basta, c'est que on a des besoins et... Enfin, voilà, je cours pas pieds nus, je mets quand même un t-shirt, parce que de toute façon, c'est censé être interdit par la loi de courir torse nu, même si j'adorerais faire ça tous les jours comme mon pote paléophile spécial casse dédié. Mais... Je pense qu'on peut aussi éviter de tomber dans un certain excès d'acheter une paire de pompes juste pour y a un nouveau coloris. Je veux dire, là, entre la Kinvara 4, la 5, la 6, la 12, c'est pareil, quoi.
Non, mais tu rigoles, c'est pas du tout la même technologie. T'as 2 mm de plus, t'as des lacets de 3 cm plus longs, t'as une aération mèche avec un meilleur rendement, et en plus elles font courir plus vite. Alors là, tu vois, tu dis n'importe quoi.
Ouais, mais bon, au fond, je sais que vous avez compris, et je suis d'accord avec David qu'il faut accepter certaines contradictions. C'est peut-être un des défis de la vie que d'apprendre à vivre avec ces contradictions. Je le sais, je suis sagittaire, mais je crois aussi qu'on n'est pas tout le temps obligé d'être des gogos, quoi. Voilà, c'est tout.
Bien sûr, il y a les besoins d'un côté, il y a les envies de l'autre, et puis il faut, enfin, dans la mesure du possible, essayer de taper au milieu, voilà, d'être dans le plus raisonnable. Après, voilà, il y a tout forcément des déviances. Merci, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, moi aussi, pareil, je fais plein de bisous.
Eh bien, merci à vous trois pour ces chroniques, d'avoir répondu présent pour ce premier épisode de Jogging F Bonito. On va se retrouver pour l'épisode suivant, s'il y en a un ou un deuxième, mais je pense, non?
Bah ouais, on va essayer.
Évidemment.
Ça serait bien, ça, ouais.
On va essayer de s'améliorer. Et...
Ouais, il faut.
On peut toujours s'améliorer, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire un petit retour de ce que vous avez pensé de ce premier podcast.
Ouais, soyez indulgents quand même. Vous pouvez aussi nous mépriser largement.
Vous pouvez nous cracher à la gueule, on n'a rien à foutre. Mais soyez indulgents quand même, parce qu'on a un petit cœur sensible. On se fera un plaisir de vous retrouver sur le prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien, courez, faites des perfs, et à bientôt.
Ciao.
Salut.
Ciao.